moi c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Plus de 120 cas de violations des droits de l'homme répertoriés par la Voix des Sans-Voix en province entre mars et novembre 2013. Les plus fréquentes sont les arrestations arbitraires et les détentions illégales. C'est dans le cadre du projet des droits humains pour tous, cofinancé par la délégation de l'Union européenne en RDC et qui vise à impliquer les autorités locales dans la lutte contre les violations de droits de l'homme. Comment commentez-vous ces rapports et que faire pour une implication efficace des autorités locales dans la lutte contre ces violations? Nous en parlons avec Rosté Manketa, chargé des projets droits humains pour tous à l'ONG La Voix des Sans-Voix. J.R. Lungembo et Willem Lungamba assurent la réalisation de cette émission que vous présente Pierrot et la Meji sous la supervision de Nico Lungaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous pouvez également nous joindre au 081 890 49 69. 081 890 49 69. Nous avons en ligne notre invité, Rostin Manketa, qui est avec nous. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous avoir en direct dans cette émission pour, ensemble avec les auditeurs, voir comment on peut impliquer efficacement les autorités locales dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. Cela est parti de votre dernier rapport. Peut-être avant de pouvoir parler de ces rapports, ça veut dire quoi les projets droits humains pour tous qui visent-ils exactement?
Merci beaucoup. Le projet droits humains pour tous a été conçu par la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. C'est un projet qui est cofinancé, comme vous l'avez bien dit, par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ce projet veut contribuer au respect des droits et libertés fondamentales des Congolaises et Congolais en République démocratique du Congo en général et dans la zone de l'action en particulier. C'est également un projet qui s'inscrit pour la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme dans le cadre des transferts de compétences à ces organisations locales en matière de promotion et protection des droits humains et surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des activités de ces projets. La VSP, comme vous le constatez, réalise ce projet avec d'autres ONG qui sont basées en province, notamment dans la province de Bandundu, du Kasaï oriental, du Kasaï occidental, il y a aussi le Bas-Congo et l'Équateur. Et ce projet, en fait, nous avons avec ce projet implanté 8 points focaux dans les provinces précitées et chaque point focal est constitué de 2 organisations locales mais qui travaillent ensemble avec les autres ONG locales. Les points focaux que nous avons installés ou implantés ont pour tâche en fait de surveiller au quotidien la situation des droits humains, c'est-à-dire de faire le monitoring sur la situation des droits de l'homme. Faire le monitoring, c'est-à-dire aller sur le terrain, faire des enquêtes, documenter le cas de violation des droits humains. Une fois ce travail fait, le point focal ne s'arrête pas là. Ils vont vers les autorités locales, échangent des informations avec ces autorités sur la situation des droits de l'homme. Et cela pour obtenir une implication effective des autorités locales pour l'amélioration de la situation des droits humains. C'est très important parce que en matière de promotion et défense des droits humains, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif si nous ne collaborons pas avec les autorités à qui incombe au premier chef la mission de promouvoir et protéger les droits humains.
Et par rapport à ces rapports, on a parlé des plus de 123 cas de violations de droits de l'homme répertoriés dans les provinces. Je crois bien comme vous avez dit dans la zone de l'action, mais ça c'est par rapport aux chiffres. Mais au-delà de ces chiffres, quels ont été les rapports des collaborations entre les autorités locales et les ONG pendant cette période considérée?
Oui, en fait, nous sommes très heureux de dire que les points focaux ont collaboré d'une manière efficace avec les autorités locales, parce que comme je l'ai dit, lorsque les points focaux vont sur le terrain pour enquêter sur les allégations de violation des droits humains, les points focaux ne se précipitent pas dénoncer directement le cas de violation des droits humains, mais par contre font un effort d'aller vers les autorités, cela le lobbying et plaidoyer auprès des autorités, et cela a très bien fonctionné parce qu'il y a des autorités qui ont pris part aux activités organisées par les points focaux, des activités telles que le forum de restitution sur la situation des droits humains dans les différents milieux concernés, et les autorités saisies par les points focaux sont même intervenus pour certains cas de violation des droits humains qui ont trouvé des solutions escomptées. Voilà donc une façon là de une nouvelle approche pour la voie de chemin pour les droits de l'homme, faire en sorte que les autorités soient bien impliquées dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme, et cela n'est possible que lorsque les défenseurs des droits humains, notamment les points focaux qui ont été mis en place, vont vers les autorités, partagent les informations et implique celle-ci dans des solutions à trouver par rapport à toutes ces violations-là. Cela fonctionne très très bien, et ce qui est très important pour nous, c'est de faire en sorte que la mauvaise perception que certaines autorités entretiennent en ce qui concerne le travail des défenseurs des droits humains, cette mauvaise perception puisse disparaître et que nous puissions tous ensemble contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
On vous garde en ligne, Monsieur Augustin Manketa. Merci pour toutes ces précisions. On va aussi écouter les auditeurs. Omar est ici à Kinshasa, Sylvain à Mahagi. Nous dégageons ensemble les pistes des solutions. Comment peut-on arriver à impliquer efficacement les autorités locales dans la lutte contre les violations des droits de l'homme? C'est la question principale de cette émission. Vos points de vue, propositions sont les bienvenus. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-49-69. 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Omar, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamige, bonjour à tous les auditeurs de la radio Katou.
Vous avez suivi la question principale de notre émission, la démarche de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme d'impliquer les autorités locales dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans cette lutte. Alors pour y arriver efficacement, vous êtes à Kinshasa, dans le milieu où vous vivez, qu'est-ce qui peut être fait efficacement pour accompagner cette action? Comment on peut efficacement impliquer ces autorités locales dans la lutte contre les violations des droits de l'homme?
Merci beaucoup, Pierre Lamège, du verbe que vous m'indiquez. Je voudrais d'abord saluer ce rapport de la Voix des Sans-Voix, qui, à mon avis, est pertinent, parce que, en droit, il ne suffit pas d'alléguer des faits, mais encore, faut-il en apporter les preuves. Moi, je pense que tout passe d'abord par la sensibilisation des autorités judiciaires et par le respect de la loi. Pourquoi je l'ai dit, M. Pirot? La violation des droits de l'homme en général est déjà catastrophique. Mais s'il faut se borner à votre problématique, une détention ou une arrestation en droit ne peut se faire que si la loi le permet. Je crois que c'est l'article 1er du Code pénal qui dit « Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'arrestation si cela n'est pas prévu par la loi. » Et je crois l'article 17, alinéa 2, complète pour dire « Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné si cela, c'est-à-dire le fait pour lequel il est poursuivi, n'est pas prévu par la loi. » Mais s'il faut faire une étude sur terrain, M. Pirou, c'est catastrophique où on voit des gens arrêtés arbitrairement. On arrête des gens parce qu'ils ont rendu des filles enceintes, on arrête des gens pour des dettes, soit il faut arrêter réellement, mais quelles sont les conditions que la loi a prévues? Je vous donne le cas de la détention préventive actuellement au Congo. Pour qu'on détienne quelqu'un provisoirement, il y a des conditions que la loi a prévues qui doivent être respectées. Premièrement, il faut que l'infraction qu'on poursuit soit punissable d'au moins 6 mois. Et il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Si cette infraction est de moins de 6 mois, il faut qu'il y ait identité douteuse de la personne qu'on poursuit, ou qu'il présente une fuite à craindre. Mmh. Mais au Congo, même si ces conditions ne sont pas réunies, les magistrats sont munis de mauvaise foi et ils arrêtent. Pour compléter les rapports, il y a eu du 2 au 14 avril 2013 une enquête menée par les magistrats du parquet général. Selon cette enquête, M. Perrault, dans toutes les prisons de Kinshasa ou dans les centres de détention de Kinshasa. Sur les 1615 détentions qui ont eu lieu préventives du 2 au 12 avril 2014, seulement 386 étaient régulières et les 1229 étaient irrégulières. Soit elles n'ont pas été conformes à la loi, soit on a détenu arbitrairement. Et quelle a été la conséquence? Le procureur général a ordonné qu'on libère tous ces gens. Et lorsqu'on s'est rendu compte sur le terrain, on a remarqué qu'il y avait soit une lenteur de la part des magistrats, soit une mauvaise foi. Voilà comment ça se passe en RDC. Alors, comment impliquer efficacement les autorités locales? Premièrement, moi je pense que le ministre de la Justice, avec le Conseil supérieur de la magistrature, doivent mettre en place des structures pour écourter les délais d'instruction. Je crois que si on laisse les délais longs, ça permet au magistrat de faire ce qu'il veut. Il faut qu'on mette un délai fixe pour dire de telle époque à telle époque, on doit juger. Si la personne est libre, on les libère. Deuxièmement, il faut former ces autorités locales. Aujourd'hui, nombreux arrêtent arbitrairement parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas la loi. Vous savez comment le recrutement se passe au Congo, des OPJ et des magistrats. Si déjà ils ne connaissent pas la loi, ils vont continuer à arrêter de tenir arbitrairement. Aussi, il faudra qu'on publie et vulgarise ces différentes lois. Aujourd'hui même, la Bible dit « Mon peuple est mère, faute de connaissances ». Beaucoup de Congolais ne savent pas que aussi longtemps qu'on ne vous a pas jugé, on ne peut pas vous arrêter. Nombreux ne savent pas que pour qu'il y ait détention préventive, il y a des conditions fixées. Si le gouvernement peut vulgariser les lois, former ses autorités judiciaires et mettre une activité de contrôle régulière, c'est-à-dire chaque année, les inspecteurs doivent faire des tours dans des centres de détention pour questionner chaque détenu pour lui dire quels sont et vérifier les dossiers et sanctionner les OPJ et les magistrats véreux. Moi, je pense, M. Perrault, la solution, c'est l'article 150 de la Constitution qui dit « Les pouvoirs judiciaires et les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». Il faudra que le magistrat soit conscient, il faudra que le gouvernement le paye bien et aussi il faudra que toute la population ait le courage de dénoncer. Je crois qu'on aura diminué les cas de violation des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Omar. Merci pour toutes ces précisions. Vous avez proposé beaucoup de choses. Je retiens, comme vous l'avez dit, peut-être pour permettre aux autres auditeurs de comprendre la sensibilisation et la formation. Voilà le mot-clé que j'ai retenu. Il faut sensibiliser les autorités locales, mais il faut aussi la formation parce que nombreux posent des actes sans en l'ignorance. N'est-ce pas? Ils ne savent même pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? C'est comme ça que des fois, les gens arrêtent arbitrairement parce qu'il ressort de ces rapports que plusieurs cas sont les cas d'arrestation arbitraire et détention illégale. Merci beaucoup Omar. Sylvain, vous êtes à Mahagi en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Et vous êtes officier. Vous êtes officier des droits de l'homme bien sur terrain. Vous avez suivi le rapport, mais aussi à l'avenir. Qu'est-ce qui doit être fait pour arriver à impliquer les autorités locales, surtout dans le milieu où vous vivez, dans la lutte contre les violations de droits de l'homme?
Bien. Je voudrais d'abord saluer tous mes compatriotes qui m'attendent à ce moment. Spécialement la population de l'Ituri qui avait suivi que M. Sylvain, porte-parole de l'UPC, était décédé. Je suis bel et bien vivant. Monsieur Pierrot, la question des droits de l'homme est une question très épineuse. Je voudrais d'abord signaler ici que la RDC, mon pays, a ratifié non seulement le pacte africain des droits de l'homme, mais aussi la déclaration internationale ou la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Et la RDC, après la transition et après les différentes guerres de ce pays, a intégré les aspirations de la démocratie et du respect des droits de l'homme dans sa constitution. Et si vous voyez bien, l'esprit de la séparation des pouvoirs, incarné par la constitution congolaise, a échappé à la pratique politique par les animateurs politiques congolais. Je voudrais ici saluer les efforts de l'ONG, la voix des sans voix. Et ici, je voudrais saluer personnellement l'invité qui est sur le plateau et lui souhaiter une lutte noble, puisqu'en fait, quand quelqu'un défend la cause des opprimés, la question des droits de l'homme, il faut être attentif à ce qu'il fait. Je suis à Mahagi, M. Pierrot, j'ai été arrêté depuis le 25 novembre 2013. Et du 25 novembre jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été attendu. Là, je vous parle, je suis sous sérum. Je suis hospitalisé. tout simplement parce que j'ai raté. J'ai échoué à une mort la journée du mardi. Et tout simplement parce que depuis mon arrestation, je n'ai jamais été attendu. Je vous informe que j'étais arrêté par les différents.
Oui, Sylvain, je crois peut-être qu'on avait évoqué cela une fois, vous rappellerez, quand vous étiez en, vous l'avez dit, vous étiez en détention, vous avez reçu d'ailleurs dans cette émission, on avait essayé de discuter avec vous, c'était encore en direct, souhaitant bien sûr que vous soyez entendu, quelque chose ça s'améliore. Mais la situation, elle vous est déjà arrivée, mais vous, vous êtes sur place, compte tenu de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez dans le milieu où vous êtes. Alors, par rapport à notre question, comme il y a beaucoup d'auditeurs qui se bousculent sur notre standard, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour améliorer la situation afin que des cas comme ce qui vous est arrivé à la prochaine ne puissent pas arriver à d'autres personnes?
Je voudrais répondre directement à ta question puisque c'est une question pertinente. Monsieur Pierrot, j'ai toujours dit que l'homme congolais a perdu les grandes vertus de la société. L'homme congolais a perdu les valeurs morales positives de la société. Moi, je recommande à tous ceux qui sont censés maintenir l'équilibre de la société dans la communauté congolaise, dans la nation congolaise, et revenir au bon sens, d'être le vrai pédagogue. Ici, je vais citer nommément, à commencer par les gens qui sont censés assurer l'administration de la justice, de revenir des pédagogues responsables, et d'assurer une bonne justice pour tous, une justice redistributive, et non pas chercher la cupidité. Mais je vais finir pour une chose. Lorsque vous regardez la société congolaise à l'heure actuelle, M. Pio, la cupidité, le goût aux anti-valeurs, c'est ça ce que représente l'homme congolais. Moi, je pense qu'il devait changer. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je souhaite bonne chance de la lutte à l'ONG, la Voix des Savoirs. Et je voulais appeler tout le monde, population civile comme militaire, le plus petit comme le plus grand, à une lutte noble vers la défense des droits humains, puisque sans cela, le monde sera troublé. Et nous n'aurons jamais un monde équilibré. Je crois que même Dieu sera contre nous.
Merci beaucoup Sylvain. D'ailleurs, nous sommes aussi heureux parce que vous avez vous êtes intervenu dans cette émission. Vous étiez en difficulté aujourd'hui. Vous êtes libre de vos mouvements comme vous le dites vous-même. Mais vous souhaitez qu'il y ait ceux qui administrent la justice puissent être des vrais pédagogues. Et vous souhaitez que tout le monde, toute la population, soit vraiment engagée dans la lutte pour la défense de droits humains. C'est une lutte noble et cela va permettre à ce que notre société puisse aller de l'avant. Merci beaucoup Sylvain pour cette contribution. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, Pierre et la Mengi, à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Vous avez suivi cette initiative, comme l'a dit notre invité. On ne peut pas lutter dans le respect des droits de l'homme sans l'implication des autorités locales. L'expérience déjà avec ces quelques provinces, c'est salué par notre invité. Mais pour rendre cela plus efficace et permettre à ce que ce soit un concept compris ainsi à travers le pays, améliorer cette situation, qu'est-ce qui doit être fait, Ismaël?
Le nécessaire pour moi, je commence à penser à un discours du président de la République, son Excellence Joseph Kabila, qui a dit « Nous cherchons un Congo uni, fort et prospère ». La prospérité dans la justice est une chose très importante dont nous devons être évacués des difficultés et des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, qui est le premier violeur des droits de l'homme, allons maintenant au parquet de grande instance. La durée fixée à des différents amigos, c'est 48 heures pour mettre quelqu'un en détention. Et on met cette personne en détention tant qu'il n'est pas encore attendu. Avec notre prison de Lubumbashi, il y a une complicité entre le magistrat et ce qui s'y trouve. Il a fallu assez qu'il y ait 48 heures envie que ce dernier soit transmis dans la prison. Ce qui s'est passé, $1,000, $1,500. Vous verrez, c'est lui qui a tué une personne. On peut le libérer aujourd'hui, mais c'est lui qui aurait volé une poule. Il peut faire là 5 ans sans avoir été attendu. Mais il s'agit de quelle sorte de justice? Pour qu'il n'y ait pas la violation des droits de l'homme. Bon, il a fallu assez qu'on ait une justice très forte. Le président de la République l'a dit. À cela, on pourrait aussi s'évacuer à Saint-Jean de Manœuvre. Deuxième des choses, il faut que la morale soit soutenue. Il soit encore arrangé. Dans quel sens? Vous êtes une population. Il faut que vous soyez informés sur vos propres droits. Mais ce que nous constatons, c'est autre. Même si tu as tes droits, il y a une fois où on est venu à 1h, 5h, Bon, c'est, tu étais venu à 5h. Bon, j'ai fait sortir seulement ma constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, ah, laissez avec vos petits cahiers, vos listes de la loi. Ça ne sert à rien. Vous voyez que nous vivons dans un droit où chacun a ses propres droits, ses devoirs. Mon devoir, par exemple, je devais lire la loi et leur dire, ça c'est une arrestation arbitraire. Rentrez, je ne peux plus vous voir. Mais ça ne peut jamais se faire. On peut toujours t'arrêter et t'amener. Il faut éduquer aux gens. C'est-à-dire quoi? Leur enseigner les autres. Et leur devoir pour qu'ils ne soient jamais embêtés d'une manière ou d'une autre.
Mm-hmm.
Que les prisons ne soient pas seulement pour les riches, pour les pauvres, plutôt que pour les riches. Parce que les riches, on ne peut jamais voler leurs droits. Et le parapluie que j'ai aussi entre la justice, c'est un problème très majeur qu'on ne peut jamais soulager aujourd'hui. Ce matin, je devais aussi faire j'ai une intervention. J'ai laissé dans le sens dont je devais parler. Sinon, il faut commencer à soutenir notre pays. Tu es magistrat, tu peux d'abord penser. Moi, entre 2005, on avait les bureaux de consultation gratuits. Moi, c'était un bureau qui opérait. On arrêtait quelqu'un bon, illégalement. On devait intervenir pour savoir réellement il s'agit de quoi. Bon, à Makala, dernièrement, quand on était de l'autre côté, on évacuait beaucoup de personnes. Actuellement, bon, c'est curieux, il me fait la voix pour aussi soutenir cette justice. Il est tellement éliminé pour que la justice continue. Ce n'est pas bon, soit le magistrat. Non, non. C'est le magistrat qui est en complicité avec ce genre de personnes. Alors, pour finir, j'ai dit qu'il faut soutenir la justice et les gens soient informés, organiser des différentes émissions en vue que la population soit plus touchée, en vue qu'ils connaissent d'abord les droits et la violation des droits. Et je vous remercie tous les auditeurs de la radio Capi et à Chitoku Patient. Merci.
Merci beaucoup Ismaël. Vous avez pensé comme Omar qu'il faut vraiment plus travailler avec ceux qui s'occupent de la justice. Vous avez parlé des magistrats parce que c'est il y a des gens qui doivent faire respecter la loi. C'est par là qu'on doit permettre que les droits des gens puissent être respectés. Mais il ne faut pas aussi oublier l'information qu'il faut apporter à la population, la sensibilisation. Les gens doivent connaître leurs droits, leurs devoirs. Et c'est là, vice versa, que ce soit la population, que ce soit les autorités, c'est là peut arriver à améliorer cette lutte de violation de droits de l'homme. Merci. Nous allons écouter Clément qui est en mouvement et revenir ici à Kinshasa avec notre invité pour qu'il puisse commenter ces interventions des deux auditeurs. Clément, vous nous appelez du mouvement au Kassai Oriental. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs de la radio Kati.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez suivi les uns et les autres. Le rapport est là, 123 cas des violations des droits de l'homme à travers, bien sûr, les provinces qui sont concernées par ce programme. Mais il faut aussi arriver à des solutions concrètes. C'est ce que nous dégageons ensemble avec vous dans cette émission par rapport à l'implication des autorités locales dans la lutte contre ces violations. Qu'est-ce qui doit être fait, Clément?
Oui, à mon humble entendement, le problème de violation des droits de l'homme, c'est comme une sève qui quitte de la racine pivotante et principale vers les feuilles. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème des magistrats, des OPJ, donc c'est un problème de tous les citoyens ou tout le peuple congolais.
Mmh.
Et s'il faudrait éradiquer cette situation, c'est dans un premier temps mettre dans les bonnes conditions, ceux-là qui exercent et ceux-là qui ont le pouvoir de pouvoir arrêter.
Mmh.
Pourquoi les mettre à l'aise? Parce qu'ils sont butés devant une petite corruption, une fois qu'ils se retrouvent devant un fait accompli ou non accompli, mais parce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter. Ils arrêtent, et après avoir arrêté, pour que vous puissiez demander une liberté provisoire, et en la demandant, il faudrait débourser. Et une fois que l'on débourse, on relâche. Et une fois que l'on peut prétendre prévaloir son droit, c'est le droit du plus fort qui prime. Donc, quel est le droit du plus fort? De celui qui a arrêté. Alors, celui-là, il faut le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il ne puisse pas bouter dehors le droit d'autrui.
Mmh.
C'est-à-dire que détenir quelqu'un au-delà de 48 heures ou détenir quelqu'un sans mandat, sans quoi que ce soit, sans une invitation, faire une perquisition au-delà des heures prévues, alors c'est ça ce que nous sommes en train de déplorer, et nous demandons à ceux-là qui tiennent le parcelle de pouvoir de mettre dans les bonnes conditions les magistrats, les OPJ, donc toutes les structures qui ont le pouvoir d'arrêter, les mettre dans les bonnes conditions pour le mettre hors de corruption, pour ne pas fouler au pied le droit d'autrui. Mmh. Voilà ma petite contribution ce matin, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Clément, de nous avoir appelé des Mbujima. Et nous retournons dans la capitale. Avant d'écouter notre invité, nous avons encore un dernier auditeur pour cette première partie des interventions des auditeurs. C'est Bénin. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. Il y en a qui ont pensé qu'il faut d'abord un travail de sensibilisation, de formation auprès des autorités locales, des autorités judiciaires, pour arriver vraiment à lutter efficacement contre les violations des droits de l'homme. Mais il y a aussi notre ami qui a pensé qu'il faut aussi l'amélioration de leurs conditions de travail, mais tout en pensant que c'est un problème global, un problème de toute la société congolaise, la lutte contre les violations des droits de l'homme. Quel est votre point de vue, Bénin?
Bon, mon point de vue s'éloigne un peu de mes auditeurs précédents.
Mmh.
Parce que moi, je pense que c'est souvent le droit de l'homme est violé par des faits politiques. Et que parce que les autorités locales exécutent certains ordres à caractère politique,
mmh,
il est difficile de les impliquer parce qu'ils sont les exécutants. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être un gouverneur de province qui est dérangé politiquement par un opposant, par exemple. Lorsqu'il donne l'ordre, d'après son humeur, ses intentions politiques, d'arrêter cet opposant, on ne va pas respecter la procédure. À ce moment-là, le droit de l'homme est violé. Donc, le problème des autorités locales dépend d'abord des autorités. Moi, d'ailleurs, individuellement, je dirais mieux qu'il faut un mémo au chef de l'État lui-même. Parce qu'on peut chanter « droit de l'homme violé », tout ça, ce sont les faits politiques aujourd'hui. Donc, si vous vérifiez bien, que ce soit dans tous les pays, démocratiques ou non démocratiques, ce sont les faits politiques qui attaquent toujours le droit de l'homme.
Mmh.
Et lorsqu'on n'a pas compris ce fait, on pourra toujours chercher des solutions qui ne peuvent pas aboutir parce que c'est hors cette question. Donc, il faut que la politique elle-même apprenne à respecter le droit de l'homme. À ce moment-là, le droit de l'homme sera respecté dans tout le pays et surtout en RDC.
Voilà, merci beaucoup Bénin. Pour vous, vous pensez que le problème est d'abord au niveau des faits politiques. C'est un problème quand on, sur les plans politiques, on n'a pas, on n'apprécie pas, par exemple, les interventions, les points de vue de son contradicteur ou bien que ce soit des débatteurs, que ce soit au niveau de l'opposition. Alors, ça dit que l'autorité applique, il recourt à sa position politique pour pouvoir faire arrêter quelqu'un. Ce qui fait que, aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement au niveau de la conception politique, c'est ça difficile de que les autres solutions puissent arriver à améliorer la situation de droits de l'homme en RDC. Merci beaucoup au Bénin. Je rappelle encore le numéro d'appel 081 890 49 69.
Okapi-Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Monsieur Rostin Manketa, vous êtes avec nous, vous avez suivi les auditeurs, plusieurs propositions, plusieurs points de vue. Hein. Comment vous pouvez analyser ce que les auditeurs ont pensé de ce travail par rapport au programme que vous-même vous pilotez? Comment concilier tous ces points de vue pour qu'on puisse arriver vraiment à un objectif commun qui est l'implication des autorités locales dans la lutte contre les violations des droits de l'homme?
Merci beaucoup. Je dois d'abord remercier tous les auditeurs pour les encouragements au travail que ne cesse d'abattre la voix des femmes au président de l'homme en République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Et je les remercie aussi pour toutes les contributions combien pertinentes qu'ils ont apportées. Et je partage entièrement tout ce qui a été dit. Il faut que tous et toutes s'impliquent dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous, les défenseurs des droits humains, la population dans son ensemble, et y compris toutes nos autorités, les autorités à tous les niveaux. Nous devons donc faire ce travail de sensibilisation des uns des autres, faire ce travail de formation. Et c'est ce que la VESPA a toujours fait, la VESPA sillonne à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour former, sensibiliser aux droits humains, sensibiliser à la démocratie. Et la VESPA est en train de réaliser ce projet dans ses soucis, effectivement, pour que la société civile, les ONG de la société civile puissent bouger de partout. En bougeant de partout, je pense que nos autorités auront des répondants en face d'elles. Mmh. Et en ce moment-là, nous pouvons ensemble contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. En ce qui concerne le personnel judiciaire, par exemple, ou les autorités judiciaires, je crois qu'il est très, très important aussi à ce niveau-là de les sensibiliser, parce que c'est à ce niveau-là que se pose souvent le problème. On a fait allusion ici aux conditions de travail. Il faut que les gens qui disent le droit soient dans de bonnes conditions de travail pour qu'ils ne soient pas tentés, d'aller en dehors de ce qu'ils doivent faire. Et ceci est très, très, très important. Nous en appelons donc à l'amélioration des conditions de travail, des conditions socio-professionnelles, des magistrats et de tout le monde, des agents de la police, nous dirons, des militaires, des agents fonctionnaires de l'État. Donc, tout le monde a droit à un salaire qui lui permet, n'est-ce pas, de nouer les deux bouts du mois, et cela pourra permettre d'éviter, n'est-ce pas, de tremper dans la corruption ou dans la concussion et d'autres faits encore qui sont des abus. Mm-hmm. À ce niveau aussi, par rapport aux autorités en République démocratique du Congo, il est très très important, n'est-ce pas, de souligner une chose, comme nous l'avons dit, améliorer les conditions socio-professionnelles est une chose, mais il faut aussi, n'est-ce pas, réprimer. Il faut réprimer tous les auteurs, n'est-ce pas, des violations des droits humains. C'est le cas, nous avons parlé de détention arbitraire et de détention illégale et des arrestations arbitraires. Il faut que les auteurs de toutes ces violations des droits humains soient souvent réprimés, parce que aujourd'hui, les auditeurs l'ont souligné, il y a des arrestations qui sont, qui sont opérées ici et là dans le simple but, n'est-ce pas, de rançonner la population. Mm-hmm. Il y a des personnes, nous l'avons dit dans notre rapport, des personnes qui sont arrêtées en lieu et place d'autres personnes, de membres de famille présumés avoir commis une infraction. Je crois que ce sont des pratiques qui sont inacceptables dans un État qui se veut un État des droits. Il faut que de telles personnes soient sanctionnées, parce que la responsabilité pénale est individuelle. Le fait d'aller arrêter une personne à la place, par exemple, d'une autre, et cela n'a que le seul objectif, n'est-ce pas, de rançonner la personne, de lui soutenir un peu d'argent, mais ça n'a rien à faire avec la justice, avec le droit. Donc voilà, je suis très très content avec toutes les contributions des auditeurs, et je crois que c'est un grand soutien par rapport à ce projet que nous sommes en train de réaliser. Donc les autorités doivent être sensibilisées, doivent être vraiment impliquées, pour que les droits humains soient respectés en République démocratique du Congo. Mais il faut souligner une chose, il est important que certaines autorités aussi, surtout au niveau national, se débarrassent de certaines considérations, de certaines perceptions, n'est-ce pas, qui n'encouragent pas parfois cette collaboration. C'est pourquoi ce projet est en train, n'est-ce pas, il vise, en fait, à rapprocher les autorités, les défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile, pour que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant en matière de promotion et protection des droits humains.
Oui, mais vous avez suivi Rostem Nkeita, vous avez suivi Bena de Kinshasa, qui lui a beaucoup insisté sur beaucoup des violations des droits humains qui sont des faits politiques, mais cela va peut-être au niveau aussi des considérations personnelles, de la volonté que la personne a de pouvoir arriver au respect des droits de l'homme. Mais alors, comment s'est fait le travail au niveau de structure que vous avez quand il s'agit de cette violation qui est des faits politiques, si on peut aller au-delà du fait de la justice, des magistrats, mais quand alors une autorité locale peut décider de recourir à l'arrestation pour résoudre un cas peut-être d'une incompréhension politique avec d'autres acteurs politiques, et dans ces cas, comment menez-vous la démarche pour arriver à faire changer cette façon de voir au niveau de considérations politiques?
Oui, je crois que le plus important ici, il faut que les autorités politiques comprennent une chose, que le fait d'assumer des fonctions politiques ne signifie pas que les autres dans la société deviennent, je dirais, des personnes sans utilité. On a des fonctions politiques pour servir la nation, pour servir la population. Ceci est très, très important. Mm-hmm. Toutes les autorités politiques qui recourent à l'instrumentalisation des services de sécurité, à l'instrumentalisation des agents de la police nationale congolaise, je pense que ce sont des pratiques qui doivent être dénoncées, qui sont inacceptables. Et nous pensons que à ce niveau-là, la population que nous sommes en train de sensibiliser doit s'assumer, n'est-ce pas, pour ne pas permettre à des personnes qui n'ont que leurs propres intérêts, n'est-ce pas, occuper des fonctions politiques importantes. Et aussi, il faut que nous puissions interpeller ici ceux qui nomment certaines autorités, disons à tous les niveaux, hein, n'est-ce pas, de choisir les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Parce qu'il est vraiment inacceptable qu'une personne se cache derrière ses fonctions politiques pour instrumentaliser les services de sécurité, les agents en fonction de l'État, ou instrumentaliser la police nationale congolaise pour saisir ou violer les droits de ses compatriotes, les droits des populations congolaises. Je crois que ça, c'est tout à fait inacceptable.
Voilà, on va revenir à vous, Rostin Manketa. Il est temps d'écouter encore les auditeurs, Jean-Claude qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga, Adrien est à Kimpese. Je rappelle encore que nous commentons ensemble avec les auditeurs votre dernier rapport de l'ONG, bien sûr, la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, sur les violations des droits de l'homme en province entre mars et novembre 2013, 120 cas de violations répertoriées. Les plus fréquentes sont les arrestations arbitraires et les détentions illégales. Mais dans tout cela, comment on peut arriver à impliquer les autorités locales dans la lutte contre les violations de droits de l'homme dans notre pays? C'est la question principale dans cette émission. 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Jean-Claude, vous nous appelez de Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Et vous avez suivi les uns et les autres, et aussi hein, les commentaires de notre invité. Ensemble, nous dégageons les pistes des solutions. Comment arriver à impliquer les autorités locales dans la lutte contre les violations de droits de l'homme? Bien sûr qu'Ea Bena a pensé que c'est difficile, Bena qui nous appelait de Kinshasa. Dès lors que l'autorité locale a des considérations politiques dans la violation des droits de l'homme, il sera difficile qu'il puisse aussi être lui-même auteur ou acteur dans la recherche des solutions. Pour vous, alors, d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait?
Oui, Pierrot, je pense que je dois d'abord féliciter les compatriotes pour les efforts qu'ils sont en train de fournir, et surtout la radio Capi, vraiment pour ce genre d'émission.
Merci.
Mais je voudrais d'abord m'inscrire en faux. Je voudrais d'abord m'inscrire en faux pour le monsieur dont on, pour les compatriotes qui ont toujours dit que c'est faute de bons salaires, que les magistrats s'adonnent à des infractions, puisque moi j'appelle ça infraction, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de commettre même d'abord des infractions, puisque arrêter quelqu'un qui n'a rien fait, ou peut-être puisqu'il a manqué quelque chose et il est transféré directement en prison, moi j'appelle ça infraction. Mm-hmm. Je ne suis pas du tout juriste, mais j'ai toujours vu ça vraiment de mauvais œil. Je n'accepte pas, je m'inscris en faux. Pourquoi? Puisque si seulement tout le monde, à son niveau, au niveau de son travail, s'il n'est pas bien payé, s'il doit vraiment se donner au vol, s'il doit vraiment se donner peut-être à des pratiques moins considérées, moi je pense que ce sera vraiment un chaos pour ce pays. Mm-hmm. Donc les conducteurs des engins voleront des carburants, c'est là qu'ils sont au niveau des caisses de finances, ils vont vraiment faire des détournements puisqu'ils ne sont pas bien payés. Et pourtant je sais très bien que la Constitution nous donne quand même le pouvoir de revendiquer, jusqu'à aller même à des grèves. Mmh. C'est-à-dire il y a des mécanismes qui peuvent quand même amener à revendiquer ou à amener quand même certaines personnes à atteindre leurs souhaits. Voilà, donc dire que c'est puisqu'ils sont mal payés qu'ils doivent vraiment faire ce qu'ils sont en train de faire, là je m'inscris en faux. Alors pour revenir au niveau des autorités, il est vrai, j'ai toujours répété M. Pierrot, chaque fois qu'il faut toujours monter des mécanismes de contrôle, puisque les magistrats se sentent vraiment au-dessus de la loi. Ils pensent qu'ils sont intouchables, même avec certaines autorités politiques. Donc ils pensent qu'ils sont intouchables et que du moment qu'il est magistrat ou du moment qu'il est homme politique, donc il peut vraiment utiliser les institutions de l'État pour essayer de faire des règlements de compte, pour essayer vraiment d'imposer son autorité. Or ce n'est pas ça. Je pense que le plus grand problème c'est l'ignorance. Mais si je dois proposer quelque chose, puisque rester sans faire quelque chose aussi, c'est mauvais.
Oui.
Donc moi, je pense que les ONG qui sont en train de militer pour les droits humains, les droits de l'homme, peuvent continuer toujours à les faire et collaborer. Hein, en absence des institutions qui doivent contrôler ces magistrats, faire un peu de suivi dans les prisons, alors eux peuvent remplacer, ils peuvent se substituer à ces mécanismes-là et faire des rapports, des communiqués de presse et aller donner de temps en temps vraiment aux autorités, que les autorités se verront peut-être pressées et ils vont chercher à faire quelque chose. Ce pays est malade, Pierrot, ce pays est gravement malade. Mais j'accepte vraiment que les autorités sont en train de revenir vraiment à la charge. Ils
voilà.
sont en train de faire les efforts considérables quand même.
Merci
mais
beaucoup,
nous ne sommes pas encore
Jean-Claude.
Arrivés aujourd'hui.
Voilà. Merci
Je
beaucoup,
pense
Jean-Claude.
Que nous puissions tous les aider.
Voilà, merci beaucoup, voilà. Jean-Claude. C'est ça même, vous avez dit que le pays est malade, nous devons tous les aider. C'est pour cela que nous sommes d'ailleurs dans cette émission, c'est cet échange, c'est toutes ces pistes et des solutions, n'est-ce pas, nous, les ONG, le média, la société civile, les autorités, voir ensemble dans la même direction comment on peut arriver à améliorer. Mais vous avez beaucoup insisté sur le mécanisme des contrôles, la dénonciation aussi, le monitoring. C'est ce que déjà les ONG sont en train de faire. Hein. Il faut de temps en temps faire des monitoring, dénoncer pour qu'on arrive vraiment à impliquer chaque personne dans le changement. Mais pour vous, vous ne pensez pas que le fait que les gens soient mal payés soit vraiment à la base des autres pratiques. C'est un problème aussi de conscience, un problème de volonté. Merci beaucoup Jean-Claude. Adrien, vous êtes à Kimpese, dans la province du Bas-Congo. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a notre ami Jean-Claude qui a dit la même chose que Clément, que le problème, c'est un problème de nous tous. Nous devons nous engager à sensibiliser, à dénoncer pour arriver ensemble avec les autorités à améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Quel est votre niveau de contribution?
Oui, voilà. Donc, ma contribution est celle-ci, monsieur le journaliste. Oui, en bien écoutant Monsieur Jean-Claude qui a vraiment épinglé quelque chose que les auditeurs, les autres ont en avant parlé, c'est quoi? C'est le problème de l'éducation des magistrats. Jean-Claude vient de souligner ici que ce n'est pas parce que ces magistrats et ces OPJ ne sont pas payés, c'est pourquoi avec toutes ces colères-là, il doit maintenant les renverser au niveau de la population. Non, ce n'est pas ça le quoi. Et si aujourd'hui nous allons nous épingler au niveau de la police, par exemple, et les magistrats qui ne sont pas bien payés, et que dirais-je pour les professeurs, les corps enseignants qui ne sont pas payés? Donc, et aussi dans leur tour, ils doivent aller frapper les écoliers. Non. Donc le problème est simple, monsieur le journaliste. Le problème c'est quoi? Ici nous sommes en face de la loi. La loi nous dit que les arrestations arbitraires de détention illégale, la torture est interdite par la loi. Mais moi, par exemple, depuis que je suis ici à Kimpese, monsieur le journaliste, là où je vous parle, je suis président d'un parti politique, comme je disais, je suis président du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le RCD, au niveau du territoire ici. Mais nous assistons des choses sérieuses parfois ici. Le magistrat, les OPJ. Moi, par exemple, j'ai une petite histoire. C'était, je crois, la semaine, ce jeudi, un lieutenant qui accompagnait des policiers pour une arrestation. Mais en route, après cette arrestation, c'est même le lieutenant qui ordonnait aux policiers et à la population de taper sur cet individu-là qui était, je ne sais pas si la présomption d'innocence existe ou quoi. En cours de route, oui, allô.
Oui, allez-y, nous sommes avec vous, Adrien. Continuez, vous avez cet exemple d'une autorité policière qui lui-même autorise ses agents et la population de pouvoir.
Oui, qui accompagnait des policiers pour une arrestation, et après cette arrestation, en route, en cours de route,
le même lieutenant qui ordonnait aux policiers de torturer ces messieurs en route, j'ai essayé d'intervenir, mais bon, ça va. Nous ici, en tant que parti politique, parfois, nous ne sommes pas écoutés. Mais c'est pourquoi un peu, je voudrais demander aux autorités nationales d'essayer un peu d'impliquer la loi au niveau de ces OPJ-là. Parce que ces OPJ, comme Jean-Claude vient de le dire, ils se sentent ici comme deux intouchables. Qu'est-ce que tu vas aller dire devant un OPJ qui est à l'instruction?
Donc voilà, voilà un peu. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Merci, ça c'est important. Hein. C'est important ce que vous avez dit. Le grand problème aujourd'hui, c'est le respect de la loi. Il y a la loi, il faudrait qu'à tous les échelons, qu'à tous les niveaux, les gens s'engagent à respecter la loi, que les autorités, que chacun s'engage vraiment à respecter la loi. Mais beaucoup d'auditeurs ont pensé aussi que tout passe aussi par la sensibilisation, le problème de la volonté. Si les uns et les autres ont cette volonté, hein, ça peut arriver qu'ensemble nous puissions travailler pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Merci beaucoup, Adrien. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous avez suivi les uns et les autres. Maurice, comment arriver à impliquer tout le monde, les autorités locales, comme les uns l'ont dit? Il y a Clément qui a pensé que c'est l'affaire de tout le monde. Comment chacun peut jouer les rôles dans cette amélioration de la situation des droits de l'homme?
Oui, permettez-moi, Pierrot, de joindre d'abord ma voix à celle des autres intervenants de Radio Capi qui l'ont fait avant que moi, comme c'est ma toute première intervention de l'année sur la radio, souhaiter le meilleur vœu à vous, à toute l'équipe de la Radio Capi.
Merci
et
beaucoup.
À tous nos compatriotes congolais.
Merci.
Oui, je voudrais vraiment féliciter une fois de plus la Radio Capi pour le sujet du jour. Profitant aussi de l'occasion, dire bonjour à M. Rostam Maketa, un aîné du collège Ntemo que je connais encore pendant qu'ils étaient encore, nous étions encore au collège jésuite de Kasumbalunda. Alors, parlons de la situation des droits humains ici, c'est le problème même le plus fondamental qui est à la base de dérive, à la base de la destruction de la société congolaise. Alors, l'initiative de Voile des Sans Voix, je pense qu'elle est quand même salutaire, dans la mesure où elle s'étend quand même dans nos provinces. Parce que quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans nos provinces? Il n'y a pas deux, trois jours de cela, nous avions suivi, malgré que la radio Capi ne l'a pas relayé, mais nous avions suivi à travers RFI qu'il y a eu quelqu'un qui a été arrêté, quelqu'un d'un parti politique important de ce pays, qui a été arrêté juste à la sortie d'un plateau de télévision où il était pour exprimer ses opinions politiques face à une actualité brillante du pays. Mais ce monsieur a été arrêté, transféré à Kinshasa et tenu dans un lieu qui est aujourd'hui secret, qu'on ne connaît pas. Même les partisans ou les combattants plutôt de ce parti ne peuvent pas l'assister. Vous voyez déjà la situation qui se passe par exemple dans nos provinces. Alors, je ne peux pas aussi parler de la situation de droits de l'homme sans illustrer d'autres cas. Hein? Aujourd'hui, nous recevons par exemple M. Rossin Manketa, que je voudrais même poser une question directe. Où en sommes-nous avec les procès par exemple de Tshibeya? C'est lui qui a vraiment perdu sa vie parce qu'il fallait défendre quand même les voix des sans-voix. Vous comprenez? Donc, nous devons faire un effort qu'on puisse dénoncer. Vous, surtout les médias, la radio Okapi en est même fait payer le frais au courant de ces mois, plutôt de cette année. Nous avions vu que la radio Okapi a été brouillée. Pourquoi? À cause de ses opinions, à cause de sa vérité par rapport à sa ligne éditoriale. On voulait lui imposer une ligne éditoriale autre que celle qui est régie par cette radio. Donc tout ça, ce sont des choses normales qu'on doit condamner et que les médias et que la population, dans sa totalité, devraient vraiment s'impliquer pour condamner cela. Et c'est ça même qui fait aujourd'hui qu'on peut tuer des gens, et un procès semblant de procès qui s'ouvre quelque part, et par après, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe exactement, et c'est fini. Raison pour laquelle voilà. Je voudrais finir par réitérer ma question à M. Rotem Maketa, de me dire que nous sommes plutôt à quel niveau que le procès Florimel Tshibeya se trouve.
Merci.
Et les Congolais profitant de cette occasion, puisque puisse quand même en savoir plus.
Merci beaucoup, Maurice. J'ai retenu, vous avez dit, le fait qu'on ne puisse pas arriver à défendre correctement le droit de l'homme, c'est là et à la base de la dérive et de la destruction de notre société. Mais vous avez aussi insisté sur la dénonciation et la condamnation, le rôle de médias, le rôle de la société civile, des acteurs politiques. Chacun doit condamner et dénoncer des cas pour arriver vraiment à améliorer. Et cette question directe que vous avez posée à notre invité Rostem Anketa, qui est de la voix A, des sans voix par rapport au procès Fleurbière Chebeya, il pourra en profiter pour répondre à cette question quand on va conclure cette émission. On écoute, je crois bien, c'est le dernier auditeur de cette émission, Michel, qui est à Matadi dans la province du Bas-Congo, parce qu'on va revenir à l'invité pour qu'il réagisse et qu'il puisse conclure. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Comme nous n'avons plus assez de temps,
oui.
Je sais que le président en a soulevé comme problème lors de son discours aux assises de concertation nationale. Donc, notre président avait senti que le problème des droits de l'homme dans notre pays, c'est un problème. Et moi, j'ai dit, dans son discours, il a des bonnes intentions, mais malheureusement, les problèmes que nous avons, c'est les problèmes des hommes qui doivent accompagner ces lois. Vous savez, si dans des milieux urbains, il y a un problème, je vous dis, dans les milieux ruraux, c'est encore pire. Si vous allez vous rendre compte dans ce qui se passe dans nos villages, les droits de l'homme n'y sont pas. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, à plein 21e siècle, vous allez voir, il y a encore des mariages forcés dans nos villages. Il y a des enfants qui sont violés et après, on les donne au mariage à quel âge? Donc les problèmes de la sensibilisation ne suffit pas. Les problèmes que nous avons dans notre pays, c'est la justice. Voilà pourquoi même la Bible est trop claire là-dessus, que c'est la justice qui élève la nation.
Mm-hmm.
Lorsque la justice est en pente, c'est difficile, mon frère. Vous savez,
merci.
Je vais vous donner un cas.
Allez-y rapidement, Michel, oui.
Si vous allez à Koulimongo ici, allez voir ce qui se passe avec la mer. Et on ne sait pas quelles sont les vraies attributions de la mer. Vous allez voir, la mer commence à incarcérer les gens. Vous allez voir des mamans, des rivales, ils sont peut-être changés de paroles. La mère vient, il les arrête et il demande quelle amende, mon frère.
Mmh.
Moi, je crois que bon, c'est déjà quelque chose. Donc, la justice doit vraiment aider les
Merci.
Présidents. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Donc aujourd'hui, je me limite par là parce que nous n'avons pas
assez de temps. Merci beaucoup, Michel.
Les droits de l'homme n'y sont pas.
Merci Michel, c'est important. Vous avez évoqué le fait que le chef de l'État a évoqué dans son adresse lors de la clôture des assises de concertation nationale le respect des droits de l'homme, la lutte pour le respect des droits de l'homme. Et là, vous avez dit qu'il faut des gens qui puissent accompagner le respect de ces lois, des gens qui puissent accompagner l'intention du chef de l'État dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et puis, c'est ce qui est vraiment important, surtout dans le milieu rural. Merci beaucoup, Michel. Nous revenons à vous, Rostem Anketa, parce qu'on va terminer cette émission. On a suivi les uns et les autres. Il y a ce qui a été dit qui est revenu. Mais il y a deux questions. La question d'abord par rapport au cadre des concertations entre les pouvoirs publics et les ONG des droits de l'homme. On sait qu'il y a eu l'antenne des liaisons qui a été initiée par le ministre Luzolo Lobambiou. En étant aujourd'hui avec la collaboration avec les ONG des droits de l'homme et les pouvoirs publics. Mais il y a aussi cette question que Maurice vous a posée par rapport, comme nous parlons de l'association des droits de l'homme à la suite du procès Chebeya. Voilà un peu autant des préoccupations pour conclure cette émission. Nous n'avons là que 3 minutes, je crois bien, pour terminer.
Merci beaucoup, M. JR. Je salue aussi M. Maurice pour tous ses encouragements et je vous souhaite aussi de meilleurs voeux.
Oui.
Par rapport à la question relative à l'entité de liaison, je vous dirais que l'entité de liaison existe bel et bien et c'est un bon cadre d'échange pour tous les acteurs concernés en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Mais seulement que nous déplorons le fait qu'il y a un peu de léthargie. Les réunions ne se tiennent plus régulièrement comme par le passé, donc il faut peut-être redynamiser les choses, mais l'entité est là et elle regroupe les acteurs concernés comme je l'ai dit. En ce qui concerne, j'ai entendu aussi parler d'une question qui a trait à l'impunité. Je crois que la voix des centres des droits de l'homme travaille longtemps sur cette question. Il faut lutter effectivement contre l'impunité en République démocratique du Congo. Ceci est très important et ça me renvoie directement à la question qui a été posée sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. Le procès, comme vous le savez, le procès pour nous, la voix des sans présents de l'homme, c'est un procès qui n'évolue pas parce qu'il y a la mauvaise foi de dire le vrai droit par rapport à ce procès. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées au niveau au premier degré, mais nous sommes allés, n'est-ce pas, en appel parce que nous avons considéré que le suspect numéro un, qui est le général John Nungi, n'avait jamais été inquiété et qu'il est en liberté. Et ce qui a fait que la voix des centres de l'homme puisse suspendre même sa participation à ce procès, parce que nous considérons qu'il faut mettre fin au régime des intouchables, et pour avoir été cité plusieurs fois dès le premier jour de la découverte du corps sans vie de Floribert Chebeya, il était important pour la justice congolaise de procéder immédiatement sans tergiversation à l'arrestation du général John Numbi, ce qui n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, le procès ne voulait pas, comme vous dit, mais le plus important pour nous, je crois que la vérité finira par triompher. Floribert Chebeya a beaucoup fait pour ce pays et c'est quelqu'un au nom de la voix des sans voix plus grand l'homme qui a défendu beaucoup, tout le monde indistinctement et nous croyons que la vérité finira par triompher jour par rapport à cet assassinat.
Floribert, merci beaucoup Orstein Banqueta. Là on ne saura pas aller plus loin, mais on a retenu qu'il faudrait l'engagement de tout le monde, y compris dans l'antenne des liaisons avec le pouvoir public. Et merci pour toutes les précisions données à notre auditeur par rapport au procès Floribert Chebeya. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Nous vous annonçons une émission spéciale avec monsieur Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et numéro 1 de la MONUSCO. Vous pouvez déjà vous inscrire et nous envoyer vos questions et préoccupations à l'adresse pa@radiocapi.net, mais aussi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Au revoir.